France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il y a beaucoup d'inflation et les salaires n'augmentent pas. Quand on fait ses courses ou qu'on doit payer ses impôts, c'est dur.
Les Argentins, en moyenne, passent une heure de leur journée à se demander où ils mettent leurs dollars, dans quel truc ils investissent, à trouver la meilleure manière de protéger leurs économies.
J'étais travailleur indépendant toute ma vie. Je viens d'avoir 62 ans et je n'ai rien.
Christine Lagarde est optimiste pour l'Argentine. Juste avant l'ouverture du G20 à Buenos Aires il y a deux semaines, la directrice générale du FMI a déclaré que l'économie argentine était en train de se stabiliser. Ébranlée par deux crises monétaires cette année, la troisième économie d'Amérique latine a obtenu un prêt du Fonds monétaire international de 57 milliards de dollars, un montant record. Le programme fonctionne, affirme Christine Lagarde. On commence à voir des résultats. Et la patronne du FMI dit s'attendre à une embellie au deuxième trimestre 2019 avec une baisse significative de l'inflation. L'inflation, c'est justement un problème majeur et récurrent pour le pays lié à la valeur de la monnaie. Depuis le printemps, le peso a perdu 50% de sa valeur face au dollar. Face à la flambée des prix, due aussi à la baisse des subventions décidées par le gouvernement de centre-droit dans les domaines de l'énergie et du transport, de nombreux Argentins se sont mobilisés cette année pour exiger des revalorisations salariales. Car en attendant l'embellie, la vie quotidienne est de plus en plus difficile. Argentine, vivre avec 50% d'inflation, c'est un reportage signé Marie Vienno. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction de France Culture, nous recevons aujourd'hui Sébastien Velu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Argentine, professeur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Et vous réagirez tout à l'heure au reportage de Marie Vienno. Marie, au quotidien, on arrive à se débrouiller avec une inflation à 50%?
Oui, c'est vrai que vu d'ici, cela paraît démentiel, mais c'est possible en Argentine parce que tout le monde y est habitué et préparé. La moyenne, c'est 20% d'inflation par an dans ce pays, mais 50%, c'est quand même du jamais vu depuis 30 ans. Même après la crise de 2001, on était monté à 40%. Donc c'est un vrai choc. Un choc que nous ne surmonterions pas. Mais en Argentine, il y a l'économie parallèle, qui représente un tiers, voire la moitié de l'économie. Et il y a surtout le dollar. L'assurance anti-inflation des Argentins, c'est le dollar. Ceux qui en ont en Argentine sont d'ailleurs avec cette crise deux fois plus riches. Et oui, parce que le peso ayant été dévalué, on a deux fois plus de peso pour un dollar. Les grands perdants, ce sont ceux qui n'avaient déjà pas la capacité d'épargner pour en acheter. Le dollar est donc facteur d'inégalité, remède à l'inflation, mais aussi la cause de l'inflation. Chaque crise renforce son attrait et le problème, et ainsi de suite. Et c'est la répétition de l'histoire argentine.
On part à Buenos Aires où vous avez rencontré des Argentins de tous horizons.
Nous sommes à la Recoleta, qui est un des quartiers les plus chics de Buenos Aires. Et là, nous sommes dans l'hôpital public, dans le petit jardin qui est à l'intérieur de cet immense complexe fait de bâtiments plutôt anciens. Il y a beaucoup d'oiseaux, un bougainvillier, c'est très calme. Et on a rendez-vous avec une chirurgienne du service des urgences ici. Et les gens qui viennent ici, est-ce qu'ils doivent payer quelque chose ?
Elles ne doivent rien payer, tout est totalement gratuit.
Bueno, yo soy Aileen Presta.
Je m'appelle Aileen Presta et nous sommes actuellement à l'hôpital Rivadavia et je suis chirurgienne.
Comment les choses ont changé ici? Est-ce que l'hôpital dans lequel vous travaillez a été affecté par la crise?
Je crois en cuanto a los sueldos.
Les salaires ont un petit peu augmenté, mais pas au niveau du pourcentage de l'inflation.
Et
sinon, ce qu'on a vu aussi ces derniers mois, c'est de nombreux patients qui vivent dans la rue. Il y en a beaucoup plus qu'avant.
Y después lo que vi es mucha más cosas relacionadas con la violencia.
Et sinon, si ce qu'on voit plus depuis quelques mois, ce sont des blessures liées à la violence. Des blessures qui sont des conséquences d'attaques à l'arme blanche ou d'armes directement à feu.
Comment vous vous êtes adapté alors à cette différence d'inflation et votre salaire?
Comment hago? Trabajando más.
Je dois travailler plus.
Tengo que trabajar más.
Je travaille beaucoup plus d'heures qu'avant pour pouvoir boucler les fins de mois et avoir l'argent que j'avais avant.
C'est quoi vos horaires?
Je
fais trois gardes de 24 heures par semaine. Avant, je travaillais 48 heures, c'est-à-dire deux gardes de 24 heures.
Manifestation express au pied de l'obélisque en plein centre de Buenos Aires, là où personne n'avait le droit de circuler pendant le G20. Pour ces livreurs à moto, comme pour tout le monde, les salaires sont en retard sur l'inflation, mais eux, leur matière première, l'essence, a doublé en un an. Doublé à cause du dollar. Dans les rues autour, il y a des queues à la sortie des banques. Rien d'anormal, ce n'est pas la panique. On est au début du mois et les salariés qui sont au blanc, c'est-à-dire déclarés, viennent retirer leur salaire pour l'avoir en liquide et ne pas le laisser à la banque. Le début du mois, c'est aussi le moment pour retirer des aides au guichet des centres sociaux, l'aide que l'on peut. Il n'y a pas d'allocation chômage en Argentine, mais la ville de Buenos Aires aide les plus de 60 ans à se loger.
J'ai perdu une maison et j'ai dû louer. Cela fait un an que je touche cette aide.
C'est combien ?
3 000 pesos. Avant, c'était 3 300, mais ils l'ont réduite. Comment peut-on vivre avec 3 000 pesos quand tout empire ?
3 000 pesos par mois, un appartement en vaut 7 000 à Buenos Aires. Mara était en colocation jusqu'à l'automne, et puis le dollar s'est envolé. Mara est sociologue, sans poste ni étudiant. Elle est devenue auto-entrepreneuse, et quand le dollar a doublé en septembre, ce fut le coup de grâce. Elle vit maintenant à l'hôtel.
J'ai une petite entreprise, je fais des couvertures cousues main que je vends sur Facebook. Quand il y a eu la dévaluation en septembre, le dollar est passé de 20 à 40 pesos.
Et pourquoi la dévaluation a eu un impact sur vous ?
Parce que ma matière première a augmenté. Le prix de la laine est en dollars ici. Ce que je payais 300 pesos, j'ai dû le payer 600. Quand tu augmentes les prix, tu ne trouves plus de clients, puisque pour eux, tout augmente aussi. C'est ça la récession. En fait, j'étais sur la brèche depuis un moment. On dit « safando » ici. Tu t'en sors. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis il y a un moment où, boum, tu tombes. L'origine de tout ça, c'est 2001, la crise de 2001, un désastre total. En 2001, ma famille a tout perdu. Mon père avait une entreprise de 400 personnes, c'était un immigrant qui avait travaillé toute sa vie. Il a perdu sa maison, l'entreprise, la vie. Ma mère était à l'ouest. Mon frère aussi a perdu sa maison, c'était une période où on a tout perdu. Ce qui se passe aujourd'hui est très semblable, mais c'est moins violent. Il n'y a pas de saccage, de pillage. On verra ce qui va se passer cette fois en décembre, au moment des fêtes.
Une force maravillosa de la Feria de Mataderos.
C'est un très grand, grand marché à l'ouest de Buenos Aires, le quartier des abattoirs. On y tue encore des bêtes la semaine et le week-end, on y danse, on y mange, on y travaille à tous les âges. Du côté de la marchandise, pas de crise apparente. Slip, noix de muscade, maté, habits de poupée, les étals sont remplis de choses venues de Chine, mais surtout faites maison. Roberto vend des pantalons de qualité moyenne, dit-il, mais cousus main par ses soins.
On traverse un moment difficile, encore un. Ce n'est pas la première crise que l'on vit. C'est triste, dur, mais il faut la surmonter. Ici, le carburant a augmenté 14 fois en un an. Et les Argentins n'ont pas bougé. Et avec le peu qui est arrivé aux Français, ils ont retourné Paris, mon Dieu. Ici, ça ne va pas bien, mais on est habitué. Nous, ça nous irait bien ce que vit la France. Mais chez vous, les gens n'ont pas l'habitude. La solution ici, c'est de continuer à travailler, ce qui est une bonne chose. C'est sain. Si la retraite, c'est s'asseoir devant un téléviseur et regarder la vie des autres, c'est pas la vie.
Quel âge vous avez, vous, monsieur ?
77 ans.
Est-ce que vous avez des économies à la banque ?
Écoute, un retraité ne peut pas épargner. Il ne peut quasiment pas vivre. La retraite ici est très faible. C'est effrayant, atroce.
Mais est-ce que vous avez un compte en banque ?
Oui.
En peso o en dólares? En peso o en dólares?
Somos fanáticos del dólar, querida.
On est fanatique du dollar, chérie. Fanatique du dollar. On veut des dollars. On épargne en dollars. On pense en dollars. On vit en dollars. Mais ceux qui en ont le plus les ont mis ailleurs. Ceux qui travaillent les ont ici.
Donc vous avez des dollars?
Oui, un petit peu pour épargner. S'il t'arrive quelque chose, ça te permet de revenir, ça protège.
Mais les dollars, ils sont chez vous ou ils sont à la banque?
Quelle drôle de question, non?
Juste en face, Gaston n'a pas encore 30 ans et il vend de l'encens, fait maison aussi, l'arbre de sa maison. Sa fille de 6 ans l'aide à vendre, tout sourire, ce qui charme les passantes. Lui a tiré un trait sur le dollar, sur les banques, sur tous les liens avec l'économie officielle et hautement fluctuante.
Je ne veux pas être à la merci des dollars qui montent ou qui descendent. Je fais en sorte que l'argent fructifie de lui-même. Et la crise ne me touche pas, n'affecte pas mon travail. Je travaille juste un peu plus. Ce que je fais de mon argent, et cela fait quelques années que je fonctionne comme ça, c'est plutôt que de le mettre à la banque ou de le garder chez moi. Quand j'accumule de l'argent, je l'investis dans un nouveau commerce. L'argent doit être en mouvement. Si on faisait tous comme ça, il n'y aurait pas de crise, car en permanence, on consommerait et on échangerait entre nous.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Si la réalité argentine ne nous tue pas, rien ne peut nous tuer.
Est-ce que ça met? Je fais un reportage sur la crise en Argentine. Est-ce que vous avez vu une crise récemment?
Oui, elle est très forte. Il y a beaucoup d'inflation et les salaires n'augmentent pas. Quand on fait ses courses ou qu'on doit payer ses impôts, c'est dur.
Vous faites quoi comme travail?
Je suis technicienne de laboratoire. À l'hôpital aussi, on la voit, cette crise. Je travaille dans un hôpital public. Or, toutes nos fournitures, tout ce qu'on utilise à un prix en dollars, c'est importé. Du coup, on ressent la crise. J'ai un compte bancaire qu'à l'hôpital me paie en blanc, comme on dit. Mon deuxième travail aussi est en blanc. J'ai deux emplois. Le soir, je travaille dans un laboratoire privé. J'ai même eu trois boulots. À un moment. Le troisième, c'était pour épargner. Je voulais m'acheter une petite maison, mais pour avoir un crédit à la banque, il faut gagner 50 000 pesos par mois. Et moi, j'y arrivais pas, même avec trois boulots. Je me suis dit, puisque je ne peux pas acheter de maison, je vais voyager et j'ai acheté des euros. Mais bon, en tout cas, quand je pouvais, j'achetais des euros. Je les ai chez moi. Je ne veux pas avoir de problème avec la banque. J'ai peur qu'ils bloquent les capitaux comme en 2001.
Corralito, c'est le nom que l'on donne au parc pour bébés. Cela décrit ce moment où, en 2001, l'argent des Argentins n'avait plus le droit de sortir de leur compte en banque. Il était rationné au strict minimum. À cette époque, mieux valait avoir des réserves en dollars. C'est toujours le cas. Mais en avoir n'évite pas les frayeurs à Pilar, pourtant psychologue encore en activité.
Mes réserves sont en dollars, et en euros, et en bâtiments.
Pardon?
Chez moi. Chez moi.
Ça doit faire un peu peur d'avoir beaucoup de liquide chez soi.
Non, parce que si j'ai un voleur, je le donne, ciao. Je ne veux pas perdre la vie pour 13 000 dollars, 15 000. Mais pas la banque, j'ai peur avec la banque. Ni à la banque, ni à l'État. Mais cette année, il y avait un moment que j'ai eu peur.
Vous avez eu peur de quoi?
De la défaut.
D'un défaut de l'Argentine?
Ouais. Ouais. J'ai eu peur.
Vous avez sorti votre argent de la banque?
Oui, parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer. Il n'avait pas.
Donc vous aviez peur qu'ils prennent l'argent dans vos comptes?
Bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, les grands capitales ont fait ça. Les grands capitales ont quitté l'argent de l'Argentine. À cause de ça, le dollar a fait boum!
L'histoire L'histoire en Argentine n'en finit pas de se répéter. Cette année, les flux en dollars se sont taris au printemps. Les marchés financiers n'ont plus voulu prêter et le FMI a été appelé à la rescousse une nouvelle fois. Est-ce à cause de la récession, de la baisse des exportations ou parce que le gouvernement Macri avait décidé de rétablir la taxe sur les placements courts les plus spéculatifs? Tout cela à la fois et une raison plus structurelle, l'Argentine a deux systèmes bancaires, un qu'elle contrôle en pesos, un autre en dollars qu'elle ne contrôle pas.
Daniel Heyman, professeur de macroéconomie à l'Université de Buenos Aires.
Alors qu'est-ce que vous vouliez me montrer
justement? Bon, je voulais vous montrer quelques graphiques sur la situation macroéconomique de l'Argentine. Voyez ça. Ça, c'est l'accumulation de fonds à l'extérieur du secteur privé. Et vous voyez que depuis 2003 à 2018, on a accumulé 150 milliards de dollars.
À l'extérieur.
À l'extérieur. C'est-à-dire plus ou moins le système financier argentin. C'est-à-dire on a l'équivalent du système bancaire argentin à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses. Il y a des dépôts bancaires à l'extérieur. Il y a des billets de banque en dollars qui sont partout en Argentine. Des maisons à Punta del Este. Pour l'Argentin, le refus, c'est le dollar. Et ça, c'est bien sûr une pression importante sur l'économie, parce que les exportations, pour ainsi dire, doivent financer ce flux de fonds à l'extérieur.
Ce manque de confiance, en fait.
Ce manque de confiance.
Quiere cambiar dólar o peso? Ya le voy a dar el precio. 36. Serían 3.600 cada 100 dólares.
Tous les 20 mètres, dans les rues commerçantes du centre, des agents de change. Tu dis combien tu veux changer, on t'amène dans une boutique qui n'a rien à voir avec une banque, on te donne les billets, c'est simple, c'est le marché noir. Il sert à écouler l'argent liquide dont l'origine n'est pas claire, et quand il y a un contrôle de change, il permet de continuer à vivre en dollars.
Je m'appelle Laurence Loyer, je suis membre du board du groupe Superviel, qui est un groupe de services financiers en Argentine. Pendant qu'il y avait le contrôle des changes, ils ne pouvaient pas transformer leurs pesos en dollars de manière officielle. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne le faisaient pas. Ils le faisaient, bien évidemment, parce que les Argentins sont très rodés et sont très méfiants de la dévaluation de leurs économies en pesos.
Ils le faisaient
sur le marché noir.
Et ils sont où, ces dollars, alors?
Surtout aux États-Unis. Dans des banques aux États-Unis, dans des investissements aux États-Unis, dans de l'immobilier aux États-Unis.
Donc les Argentins n'investissent pas du tout en Argentine?
Ils investissent en Argentine, mais dans des produits sûrs. Et évidemment, pas dans les banques. Ça veut dire qu'ils investissent dans de la pierre. Et quand on se balade dans Buenos Aires, vous avez certainement remarqué qu'il y a des immeubles superbes, haussmanniens et tout ça. Quand on se balade dans Buenos Aires, on voit du capital. Si on se balade aux États-Unis, on voit de la dette. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, en fait, en Argentine, les gens achètent leur maison cash, 100%. Il n'y a pas de prêt hypothécaire. Donc, tout ce que vous voyez, c'est du capital. La pierre se vend en dollars en Argentine.
Les Argentins achètent des dollars pour se protéger. Les marchés financiers achètent l'Argentine pour sa rentabilité.
Giles, we suddenly have the opportunity to lend money to Argentina.
7% d'intérêt pour un bon du Trésor argentin à 10 ans, c'est un très bon rapport. Investir dans la dette française à 10 ans rapporte moins de 1%. L'Argentine est unique, explique le journaliste du Financial Times. Unique pour sa volatilité. Lucrative, avec ses taux directeurs qui dépassent les 59%, mais étouffent l'économie réelle, juge Paola Espagnol. Elle est économiste et ancienne membre du gouvernement Kirchner.
On fait tout un ensemble de mécanismes qui augmentent le profit qu'on peut faire dans les systèmes financiers et forcément, ça tue l'économie réelle. C'est ça le problème. Ce qui se casse, c'est la chaîne de paiement. C'est une petite ou moyenne entreprise qui ne le paye pas et qui a besoin de payer les salaires. Et donc, elle se retourne et il veut demander un prêt pour payer une découverte dans la banque. Ils sont en train de payer 100%, plus de 100% d'intérêt. Et le risque de la faillite parce qu'il ne peut pas payer les salaires. Ça, c'est le problème du coût élevé, très haut coût financier qu'il y en a à ce moment-là. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a tout un problème macro dont le cœur initial, c'est le manque des dollars et cette idée d'ouvrir l'économie et qu'on va avoir les dollars qu'on a besoin parce qu'ils vont venir les capitaux. Les investissements ne sont pas venus à l'Argentine. Et on n'a eu que des investissements financiers. Avoir des investissements financiers pour financer le manque de dollars que tu as, c'est une histoire qui est de très court terme. La question, c'est que cela empêche de faire des investissements productifs parce qu'il n'y a aucun investissement réel qui peut donner un profit tellement élevé. L'idéal, évidemment, c'est récupérer la confiance dans la monnaie. Mais récupérer la confiance dans la monnaie, c'est récupérer la confiance aussi dans l'économie. C'est un processus long. L'idée est que la confiance va venir parce que maintenant, par exemple, la confiance la donne que le FMI surveille les comptes. Mais ça va redonner la confiance en Argentine, donc ils vont revenir les dollars privés. Mais les dollars privés, encore, vont être des dollars financiers. Donc ils vont être aussi volatiles et instables, et dans un monde instable.
Jean-Edouard de Rochebouette, ça fait 37 ans que j'habite en Argentine. Je suis venu comme coopérant, je suis resté. Et j'ai travaillé toute ma vie dans le domaine du vin, production du vin. Par exemple, moi j'exporte du vin, mes prix sont en dollars. Et après je vis en pesos. Si j'exporte par exemple en Europe, dans une zone euro, j'ai un double risque. J'ai le risque taux de change euro-dollar et j'ai le risque du taux de change dollar-peso. Voilà un début d'explication de la complication. Alors, quand il y a des matières premières, ce qu'on appelle les matières sèches dans notre jargon, par exemple le bouchon, c'est importé du Portugal, c'est un prix en euros, donc c'est facile, ça s'ajuste automatiquement. L'évaluation, ça coûte plus de pesos. Le problème, c'est que les fournisseurs, le fournisseur de bouteilles, le fournisseur de d'étiquettes, enfin, le fabricant de papier, etc., ils s'alignent, ils dollarisent ces prix. Donc il vous dit, les prix ont monté. Et pourquoi les prix ont monté? Il y a une dévaluation. Mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi le prix de l'étiquette a monté, puisque dedans, il y a de la main-d'œuvre, il y a des choses qui ne sont pas dollarisées? Non, ça monte quand même. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on a un taux de change de l'ordre de 37, 38 pesos par dollar. Mais comme il y a eu un coup de chaud il y a un mois et demi et que c'est monté à 42, à peu près 41, 42, ça fait un mois et demi que beaucoup de fournisseurs ont dans leurs composants prix, ils ont dollarisé leur prix et ils ont multiplié par 42 pesos le dollar. Aujourd'hui, on est à 37, 38, mais ils n'ont pas baissé. Donc on a ça force l'inflation. C'est pour ça que ça, quand il y a une dévaluation en Argentine, ça relance l'inflation. Et donc il y a une très forte inflation en septembre, octobre. Et puis maintenant que le dollar est stable, l'inflation descend. Donc c'est bien, ça se freine. Mais en réalité, ça se freine, mais les prix auraient dû baisser puisque tout le monde avait fait un overshooting. On avait trop dévalué, si je puis dire, trop mis de composants de dollars dans les prix en pesos. Donc ça aurait dû baisser, mais ça baisse jamais. Les prix montent toujours et ne baissent jamais. Tout ça est géré par la Banque centrale qui, à son tour, est contrôlée par le Fonds monétaire international. Enfin, on rentre dans des situations. Effectivement, on ne contrôle rien du tout, nous, au niveau entreprise. Donc on fait avec. On essaye de deviner ce qui va se passer. C'est-à-dire, je ne sais pas de combien j'ai augmenté mes prix en janvier. Enfin, ça paraît, c'est dans un mois et quelques, mais on ne sait pas. Et voilà. Et alors, si on est très sophistiqué dans une multinationale, il y aura certainement un département d'analyse des calculs très savants. Dans une PME... Eh bien, je dirais qu'on mouille son doigt, on prend la vitesse du vent et on se dit, tiens, il faut peut-être que j'augmente mes prix de 10%. Et puis après, il y a le marché. Il y a le marché quand même qui dicte. Hein, si on n'est pas dans une situation de monopole, il y a quand même un marché. Donc je ne peux pas augmenter mes prix comme ça n'importe comment.
Vous voyez les choses évoluer comment dans les années qui viennent en Argentine?
Les années, déjà, si on peut parler de l'année prochaine, on sera content. Les années, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Argentine. Trop loin, trop long.
Janine
Pisson. Ah. Voilà.
Oui, c'est moi. Bonjour.
Enchantée, Sylvina.
Enchantée.
On s'embrasse en Argentine.
En Argentine, les gens s'embrassent.
Vous avez déjà tout compris.
Sylvina Michetti a 4 pressings, comme celui-ci, dans Buenos Aires. Un chiffre d'affaires en baisse de 20% cette année, mais elle ne s'inquiète pas pour elle, plus pour les salariés à qui les employeurs doivent verser une prime de 5000 pesos pour compenser l'inflation.
Là, on a déjà mangé 20% sur leur salaire. Alors, les 5000 pesos que tout le monde se plaint des primes qu'on doit donner maintenant, bah, c'est tout à fait juste. Tous les salaires, ils ont un écart avec l'inflation. Comment on peut se plaindre de donner 5000 pesos? Ça m'étonne toujours, cette mentalité très égoïste, très voyou. surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on ne paye pas à l'État, c'est qu'on doit à l'État. Ça, c'est... Tous les jours, nous, on va à la banque. Et toute la recette se met à la banque. Mais moi, je suis une exception à la règle. On est tellement contrôlé maintenant que les gens ils utilisent beaucoup plus l'argent officiel. Mais le noir que fait ces pays, c'est inenvisageable. Inenvisageable. Mais moi, j'ai beaucoup de mes collègues, ils ont les filles, ils payent la moitié de la fille au noir et la moitié en blanc. Parce que comme ils font 50% du noir, ils ont de l'argent en noir, tout est... Ça, c'est un vrai problème du pays. Hein. Ça, on ne s'en sortirait pas facile. Hein.
Est-ce que vous avez déjà eu à faire des emprunts aussi pour votre activité ou pas?
Oui, oui, ces deux machines, je les ai achetées avec un emprunt. Ça coûte très cher ici, les crédits. Il vaut mieux économiser un peu et l'acheter cash parce que c'est très cher. On paye presque le double. Si on emprunte 500 000 pesos, on paye 1 million.
Hola, hola Janina, comment va?
Tanto tiempo.
Comment
va? Si, hace un montón. Bueno, me alegro. J'ai vécu en France 10 ans et travailler en Argentine, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'en France. Parce qu'il n'y a pas trop de règles, les gens sont... On n'est pas trop réglo, les Argentins, c'est toujours un peu olé olé. Et pour moi, c'est un peu fatigant, mais je ne me plains pas trop. Et j'ai décidé de rentrer, alors je ne me plains plus.
Et là, aujourd'hui, pas plus qu'avant, en fait?
Pas plus qu'avant, c'est toujours pareil pour moi. Pour moi, c'est toujours pareil. Mais le plus grand problème d'Amérique latine, c'est la corruption. Vraiment, où on touche, où on regarde, il y a la corruption partout, partout, partout. Mais dans les petites choses, des fois, dans les détails, il y a un esprit comme ça. Dès qu'on donne une idée à quelqu'un, il dit « Ah oui, mais on peut faire comme ça ». Et tout de suite, c'est une idée malsaine.
Comme général, 1 million de dollars, réuniendo tan solo 5 dollars al día. El sistema funciona. ¿Te interesa? Quédate conmigo. ¡Vamos a por ello!
Con estas acciones,
comment accumuler 1 million de dollars avec seulement 1 dollar par jour? Comment acheter les produits financiers réservés aux professionnels? Quoi faire de vos pesos pour qu'ils ne perdent pas leur valeur dans l'inflation? Sur Internet, il y a 1000 conseils. Rien à voir avec la spéculation, conclut sa publicité. C'est de la pure survie.
Les Argentins, en moyenne, passent 1 heure de leur journée à se demander où ils mettent leurs dollars, dans quel truc ils investissent.
Laurence Loyer, de la Banque Supervielle.
À quel taux et à trouver la meilleure manière de protéger leurs économies. Une préoccupation que n'ont pas les Français, par exemple. C'est une perte de temps considérable pour la société, pour l'employeur, pour la famille. C'est une perte de productivité.
L'une des personnes que j'ai rencontrées m'a dit « Si jamais tu fais pas ça, le système te mange, en fait. Tu es obligé de faire ça. »
Oui, tu es obligé de faire ça. En fait, le système qui vous mange, c'est l'inflation. L'inflation, c'est un impôt, en fait. C'est un impôt sur tout le monde. Mais c'est sûr que les pauvres en souffrent plus. Ça, c'est certain. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'économiser aux États-Unis, pour vous donner un exemple, pour protéger une partie de leurs économies. Leurs économies restent en Argentine, en pesos, quand les marchés d'échange sont bloqués. Ils peuvent les dollariser aujourd'hui, ils peuvent les dollariser, leurs économies. Mais voilà, oui, c'est sûr que c'est eux qui en souffrent le plus. Mais tout le monde en souffre, et les entreprises aussi.
Là, le FMI a fait un prêt à l'Argentine qui va permettre de tenir 1 an, voire 2 ans.
Oui.
Mais après...
Alors d'abord, ça, c'est une question qu'on ne poserait jamais à un pays développé. Déjà, ça, c'est la question que vous venez vous poser. C'est une bonne question, mais si on demande à la France de prouver comment elle va payer sa dette dans 2 ans, elle serait incapable de le prouver, mais personne ne lui demande. Donc, ok, vous me le demandez parce que vous savez que l'Argentine est un pays volatile et vous avez peur. C'est pour la volatilité de l'Argentine que vous posez cette question et c'est pour les élections. Parce que les gens se demandent si Cristina Kirchner revient. Que va-t-elle faire?
Hoy presentaremos la ciudad perdida.
Ce soir, nous vous présentons la cité perdue.
La cité perdue, c'est Buenos Aires?
Non, c'est le monde.
Soy jinete que va por la vida sin cesar.
Jorge a sa guitare dans le coffre, une voix de ténor et des centaines de compositions. Mais il est taxi. Retraité et encore taxi.
Les taxis sont les plus mal lotis dans cette nouvelle crise. Leurs courses coûtent une misère, même pour l'Argentine. 60 pesos pour un quart d'heure de taxi, par exemple, c'est le prix d'un café. La course n'a pas augmenté avec l'inflation, alors que, comme pour les motards et comme pour tout le monde, l'essence a doublé.
J'ai conduit des trains, des bus, des taxis. J'étais travailleur indépendant toute ma vie. Je viens d'avoir 62 ans et je n'ai rien. Je n'ai rien. La seule chose que j'ai donnée à mes enfants, c'est la possibilité de faire des études. Ma cadette a un diplôme d'infirmière en bloc opératoire. Elle travaille depuis 4 ans. Mais si son salaire ne suit plus, elle fera aussi taxi. Moi, je me lève à 5 heures du matin et je rentre à 23 heures à la maison.
Si,
je fais ça depuis des années. Ça fait 25 ans que je fais ça. Et quel que soit le gouvernement, tous les gouvernements sont taillés dans la même étoffe. Je n'arrête pas de le répéter. À tout le monde. Ça, c'est le congrès. Et ça, c'est la place où ils viennent tous. Regarde, ils sont là. C'est ça notre problème, l'ignorance. Ce sont tous des ignorants. Ils ont coupé l'avenue Corrientes.
Là, on passe sur une des avenues de Buenos Aires et il y a aussi une manifestation, cette fois avec un syndicat. Petite manifestation, peine 100 personnes.
Il y a beaucoup de manifestations comme ça ?
Tous les jours, tout le temps. Moi, j'arrête de travailler 2 heures et j'ai rien à manger. Eux, ils peuvent rester toute la journée. Ils sont payés par leur entreprise. Ils peuvent couper toutes les rues, les syndicats. Il n'y a pas de crise en Argentine. Ne te méprends pas. Le problème de l'Argentine, c'est l'ignorance. Il n'y a pas de crise ici. Tu plantes une graine et ça pousse.
Alors ?
Ce stylo, il est à 70. Celui-là, c'est 20. 2 pour 30 ou 3 pour 50. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de pesos, je n'ai que des dollars. Je peux te changer tes dollars, combien tu veux changer ? Tu veux me changer mes dollars ? Combien de dollars tu as ? 10 dollars. 10 dollars, ça fait 350 pesos. Tu préfères avoir des dollars ou des pesos ? Des dollars, j'aime plus. Pourquoi ? Je sais pas. Tu vends le soir comme ça depuis longtemps ? 2 ans. Je vais à l'école le matin et à midi, je viens ici. Pendant 10 heures, je vends. De midi à 10 heures du soir. Que font tes parents ? Je n'ai pas de papa et ma maman, elle garde le bébé. Je vis avec elle et ma sœur. Ce que tu gagnes, c'est le seul revenu de ta famille ? Non, ma mère, elle touche aussi des allocations familiales. Combien tu gagnes le soir comme ça à vendre ? 500, 700 pesos ? Est-ce que tu manges ? Oui, un peu partout. Je vais dans les restaurants et ils me donnent à manger. Tu as remarqué qu'il y avait une crise récemment en Argentine ?
Non. Ciao.
Donc je suis juste en bas du ministère du Développement Social, grand bâtiment blanc de 20 étages avec un portrait d'Eva Perón. Et juste en bas, il y a une manifestation avec plusieurs centaines de personnes qui tiennent des pancartes disant « Macri, on veut du travail, non à la faim, dehors les génocidaires et les drones du G20 ». Il y a aussi un portrait de Che Guevara.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation pour l'augmentation des aides sociales. Les gens viennent de loin, parfois 3 heures de train. Les aides ont été revalorisées, mais pas assez. Une prime de Noël serait la bienvenue. Cette fois, tentes, couvertures, poussettes attestent que l'occupation va durer. Il y a autant de femmes que d'hommes, que d'enfants et de bébés.
Ici, celui qui ne travaille pas n'a plus d'argent.
et celui qui travaille mange. Mais c'est très difficile car les salaires sont très bas. Mon mari travaille, mais il gagne peu. On n'y arrive pas. Il y a eu beaucoup de licenciements dernièrement. Si on veut pouvoir élever nos enfants, il faut trouver des petits boulots. Avec ce que nous donne le gouvernement, on n'y arrive pas. Il faut une aide en plus. Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Les piqueteros, comme on les appelle, vont rester là toute la nuit, sans bloquer. De part et d'autre de l'avenue principale de Buenos Aires, les groupes de percussion se répondent, avec au milieu des lignes de police qui les encadrent à un mètre de distance, sans heurts. On n'y dit pas de mal du FMI, mais que de Mauricio Macri, le président. Les voitures et les camions qui soutiennent la cause klaxonnent. Mais tout le monde ne klaxonne pas. L'Argentine a aussi ses macristes convaincus. On en trouve dans tous les milieux sociaux, même dans les zones industrielles où ferment des entreprises chaque jour, même à la Matanza, ce fief kirchneriste.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Venimos a ver. ¿Qué onda?
Comment ça se passe pour vous, le travail ?
Ça va bien. Il y a toujours du travail, toujours, toujours. Si on attend que le travail nous tombe dessus, ça ne marche pas. Mais si on cherche, on trouve. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève. Mais il faut être réaliste, voir les choses en face. Demander une augmentation, faire de l'agitation. Ils n'ont qu'à travailler. Ils ne travaillent pas, c'est ça la différence. Le problème, c'est que le gouvernement d'avant donnait beaucoup d'allocations. Alors les gens se sont habitués à ne pas travailler et à toucher des aides. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, il faut travailler plus et soutenir notre gouvernement. On ne peut pas changer une dette d'un jour à l'autre.
Je ramasse le papier. Ici, on nous appelle cartoneros. On est des recycleurs. Il faut marcher dans les rues, c'est dur.
Et après, vous le vendez, le papier ?
Oui, on le vend ensuite. Ça arrondit les fins de mois. Parce qu'en ce moment, tout augmente, mais pas les salaires. L'argent manque pour entretenir la famille. J'ai un travail et le soir, je fais ça. Je travaille dans la métallurgie. Je me lève à 5h du matin, je commence à 6h. Je rentre chez moi à 16h et à 19h, je pars collecter jusqu'à minuit. Et grâce à ça, on vit.
On est à la Matanza, dans un quartier en banlieue de Buenos Aires. En fait, la Matanza, c'est un peu comme la Seine-Saint-Denis, un immense territoire avec 3 millions d'habitants. Et ici, il y a beaucoup de vichas, beaucoup de bidonvilles, et puis également des maisons, comme là, la rue où je me trouve, qui soit à moitié en tôle, à moitié crépie. Il y a de la couleur, du rose, du vert, du rouge, quelques arbres, des chiens. Et ici, des enfants qui viennent manger un goûter collectif, un goûter populaire qui est offert 3 fois par semaine parce que les enfants, de plus en plus, ne mangent pas à leur faim en Argentine.
Chocolat au lait, maté et petits gâteaux sont servis aux enfants par l'organisation Barrios des Pieds, la coopérative de travailleurs sociaux qui a manifesté 24 heures dans Buenos Aires. Au centre de leur revendication, de meilleurs aliments pour les enfants. Paola Laura est de l'équipe santé.
Ce que donne le gouvernement, c'est surtout de la farine. Du coup, les enfants mangent beaucoup de gâteaux frits et ce n'est pas sain. 2 fois par an, on mesure, on pèse les enfants. On ne voit quasiment pas d'enfants sous-alimentés, mais malnutris, oui. Ce qu'ils mangent ne permet pas à leur corps de bien grandir, pas seulement sur le plan physique, mais aussi mental. Au collège, les enfants ne peuvent pas bien réfléchir. Si on mange mal, on dort mal. Nous sommes aussi responsables du planning. On note les enfants qui viennent. Et cette année, ce fut terrible. Quasiment 10 000 enfants sont venus contre 6 000 l'an dernier. Comment une telle augmentation est-elle possible juste à la Matanza ? À nos goûters populaires viennent aussi les grands-parents, des parents, des femmes enceintes. La situation ne s'améliore pas, elle empire.
Il y a un programme qui a été lancé par le gouvernement pour aider la petite enfance. Est-ce que vous avez vu quelque chose ?
Non, ici on n'a rien vu. Il dit ça pour la télé, hein. Mais ici on n'a rien vu.
Est-ce que vous aviez
vu ça en 2001 aussi, ou est-ce que c'est différent ?
La situation est bien pire parce qu'aujourd'hui, ils ne nous écoutent pas. On fait souvent des marches, nous sommes pacifiques, on demande juste des aliments moins chers pour les enfants, pour les grands-parents, mais il n'y a pas de violence. Or, les télés sont achetées, ne parlent de nous que s'il y a de la casse. Le gouvernement fait tout pour qu'on reste dans l'ombre, qu'on ne dise pas que des ventres sont vides, que des enfants n'ont rien à se mettre dans la bouche. On essaie de dialoguer, mais le gouvernement refuse, il ne veut pas comprendre qu'il y a de la faim. C'est la triste réalité.
La réalité, c'est que le gouvernement n'est plus totalement libre de ses dépenses depuis qu'il est sous la tutelle du FMI. La réalité, c'est que la pauvreté n'est pas nouvelle en Argentine et que les députés reconduisent d'année en année la même loi d'urgence sociale. La réalité, souligne enfin Daniel Heyman, le professeur d'économie, c'est qu'aujourd'hui, un enfant sur deux en Argentine est pauvre, que les enfants sont toujours les plus affectés par les crises et qu'ils seront le terreau de celles de demain.
Les arrivants au marché du travail dans 10-15 années vont être des enfants pauvres d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des difficultés pour s'intégrer au marché du travail. Un enfant pauvre a des problèmes d'alimentation, habite dans une situation qui ne lui laisse pas la tranquillité pour apprendre, peut-être va à une école qui n'est pas une bonne école, son capital humain, si vous voulez, va être affecté, c'est-à-dire on doit être préparé avec une économie qui soit capable de trouver de l'emploi.
Ça, ça vous inquiète ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Comment tu t'appelles ?
Guaido, Alessi,
Milena,
Kim,
Sutián,
Oriana,
Tiffany,
Morena,
Kimmy,
Argentine, vivre avec 50% d'inflation, un reportage de Marie Vienno avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Sébastien Velu, professeur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, est l'invité de Grand Reportage. Sébastien Velu, on rappelle régulièrement que l'Argentine est la troisième économie d'Amérique latine. Quelle est l'ampleur de la pauvreté dans ce pays ?
Les derniers chiffres de la pauvreté parlent de 30% de pauvreté. 30% des personnes, à peu près, donc un tiers de la population en situation de pauvreté en Argentine. C'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces dernières années. On avait une réduction de la pauvreté depuis la crise de 2002. On avait vu déjà une explosion de la pauvreté. Je crois qu'on arrivait à 40% à peu près. Et là, c'est reparti. Le reportage qu'on vient d'entendre insistait sur les effets, assez peu sur les causes, mais on les a un peu entendus. C'est-à-dire qu'on a une récession économique. Il faut quand même le rappeler. Il y a l'inflation, mais il y a aussi une récession économique. Depuis l'année dernière, on doit être à -3, -4% de récession. Et du coup, il y a aussi un effondrement du marché de l'emploi. C'est quand même la première cause de la pauvreté en Argentine. À quoi s'ajoute, comme on l'a entendu, évidemment, les effets de la crise monétaire.
Et la loi d'urgence sociale qui est reconduite chaque année, elle a peu d'effet ?
Elle a peu d'effet, si vous voulez. Là, l'Argentine a un accord avec le FMI pour essayer de régler la situation financière qui amène le FMI à financer régulièrement l'Argentine pour éviter un effondrement trop brutal de la monnaie et puis pour permettre à l'État de faire face à ses obligations, de ne pas avoir de default, comme on a aussi entendu dans le reportage. Et cet accord avec le FMI prévoit un maintien des prestations sociales pour les personnes les plus vulnérables, hein, je cite, reste que ces prestations, elles sont en retrait, on l'a aussi entendu, elles diminuent un petit peu. Et donc, l'aide sociale qui était versée, elle est encore, mais elle est beaucoup plus focalisée et puis son montant est moindre.
Et elle est contestée aussi. On entend beaucoup de gens qui sont eux-mêmes pauvres mais qui ont du travail et qui finalement contestent l'idée qu'on ait des aides sociales en Argentine.
Ce discours-là sur « il ne faut pas aider les pauvres parce qu'ils sont paresseux », on l'entend un peu partout, mais je ne pense pas qu'il soit une justification fondamentale. Surtout qu'en Argentine, cette idée-là, elle est contraire quand même à la culture politique du pays, si, disons depuis le général Perón, où il y avait l'idée quand même de la redistribution et d'une plus forte inclusion sociale par la redistribution. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas qu'en Argentine, dans l'ensemble de l'Amérique latine, des voix qui disent les pauvres ne travaillent pas et les aider, c'est les maintenir dans la paresse. Mais ça, on l'entendait déjà au 19e siècle en Europe. Et justement, la force de l'Argentine, c'est d'avoir mis en place un modèle redistributif.
Mais alors, vous évoquiez ce recours au soutien du FMI. Il est extrêmement mal vécu en Argentine, puisqu'il renvoie à la fameuse crise de 2001, qui a quand même été un très fort traumatisme dans le pays.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand le FMI arrive au secours de l'Argentine, on se dit c'est que vraiment ça va très mal. Et donc on a ces comportements de fuite qu'on a pu apprécier là. Aussi parce que fait le FMI? En tout cas, qu'a-t-il fait dans ses précédentes interventions? Il a contraint l'État à une cure d'austérité majeure qui a aggravé la récession en limitant l'investissement public, en limitant les salaires des fonctionnaires, en limitant l'aide sociale.
Comment cela s'est passé en Grèce, en fait? Et là, voilà. On dirait aussi que le FMI a appris des leçons de la crise grecque et de la potion qui a été administrée à la Grèce.
Effectivement, c'est ce que disent en tout cas les spécialistes qui ont travaillé sur ce dossier-là, tant au FMI qu'en Argentine. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ne pas tuer le malade en essayant de le sauver.
Alors, est-ce qu'il y a quand même un risque d'aggravation de la crise sociale du fait de cette politique d'austérité? Là, on a entendu qu'il y avait eu beaucoup de manifestations cette année. Est-ce que vous sentez des tensions fortes? Est-ce que ça risque de dégénérer? Ou est-ce qu'on n'est pas du tout dans la même configuration?
Moi, si vous voulez, je suis assez surpris que ça n'ait pas déjà explosé parce que, effectivement, on voyait arriver le G20 et je pensais qu'il y aurait à cette occasion-là des grandes manifestations puisqu'on voyait arriver finalement les pays les plus riches et que c'était le moment de faire passer des messages. Or, cela ne s'est pas produit. Alors, est-ce qu'il y a une aide ciblée qui permet de calmer et de temporairement des mécontentements? Est-ce qu'il y a un travail plus politique qui est fait aussi? C'est possible.
Recours au FMI, est-ce que c'était obligé? Est-ce que Mauricio Macri n'avait pas d'autre choix? Ou est-ce que vous estimez que c'est une erreur politique, comme on a pu l'entendre de la part de certains?
Dans la tête de Mauricio Macri, avoir recours au FMI dans cette situation, c'était une façon de dire que l'Argentine était redevenue un pays normal et qui, dans les situations difficiles, pouvait s'appuyer sur la communauté internationale pour surmonter des passages un peu critiques, alors que dans le gouvernement Kirchner qui l'a précédé, au contraire, on a dit on va rembourser la dette qu'on a à l'égard du FMI et puis comme ça on n'entendra plus jamais parler et nous allons être davantage autonomes. C'est là qu'est le débat. Après, bon, il y a des questions de technique macroéconomique, mais il faut bien comprendre le poids politique de ce débat.
Marie Viennon.
Oui, on peut même s'étonner presque que le FMI fasse de nouveau un prêt aussi important à l'Argentine, parce que 57 milliards, c'est un de ses plus gros prêts actuels, même le plus important, alors que l'Argentine a cette histoire d'avoir déjà fait 8 fois défaut sur sa dette. On a l'impression qu'un peu l'histoire se répète. Est-ce qu'elle se répète vraiment ou pour vous c'est différent quand même cette fois?
Non, vous ne prêteriez pas d'argent à l'Argentine. Hein, je vous entends bien.
Ça dépend du pourcentage.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêtent de l'argent à l'Argentine. Parce qu'effectivement, les taux d'intérêt sont très élevés. Je pense que l'arrivée du G20 était quand même quelque chose d'important. Il ne fallait pas qu'il y ait une crise trop grave avant ce rendez-vous. Il y avait aussi l'idée que finalement, les politiques pro-business de M. Macri devaient être soutenues parce qu'elles sont quand même dans l'orthodoxie économique d'aujourd'hui. Hein. C'était peut-être moins le cas il y a 15 ans.
Et vous pensez que justement, donc il y a des élections là qui se profilent dans moins d'un an, et on a généralement en Argentine, quand on a une alternance, on a une vraie alternance avec une politique économique souvent qui va de l'ouverture libérale complète à, bon, dans les années Kirchner, quelque chose de plus contrôlé. Est-ce que là, on l'entendait aussi dans le reportage, est-ce que pour vous il y a aussi un risque, si jamais la majorité change, que ces questions financières deviennent vraiment très importantes?
Il est certain que la question financière et la question économique, elle va être centrale dans la campagne, puisque toute la question va être de savoir si, est-ce qu'au cours de l'année 2019, on a une reprise de la croissance et une amélioration des conditions macroéconomiques et des conditions sociales, Et auquel cas, M. Macri pourra éventuellement dire on a traversé une passe difficile, mais j'ai sauvé le pays. Ou est-ce que les tensions s'accentuent, s'aggravent, l'inflation repart, et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais on peut avoir effectivement un basculement de majorité.
Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, Mauricio Macri est plutôt candidat à sa réélection.
Ça, il ne l'a pas dit. Donc, je pense que si, effectivement, il y a quand même ce critère de la crise économique ou pas, si on arrive à la juguler, on ne peut pas prétendre être reconduit dans la situation telle qu'on vient de l'entendre.
Pour l'instant, il a beaucoup chuté, en tout cas, en termes de popularité.
Oui, bien sûr, parce qu'il est arrivé donc il y a bientôt 4 ans en disant on va normaliser l'économie argentine, on va être un pays comme les autres et on diminue un peu les impôts, diminuer les taxes sur les exportations et les investisseurs vont se précipiter pour investir dans notre pays. Il a fait la première partie, mais les investisseurs ne sont pas venus. Donc on n'a pas eu ce sursaut qu'il attendait, d'une part, et puis les conditions macroéconomiques internationales ont été un peu moins favorables. Et à cela s'est ajouté en plus des questions agricoles, puisqu'il y a une sécheresse l'année dernière, donc l'Argentine a exporté un petit peu moins. Il faut quand même se rappeler que c'est une économie qui est de toute façon une économie ouverte, parce que l'Argentine vit des exportations alimentaires. C'est d'ailleurs pour cela que quand on entend qu'il y a des gens qui ont faim, c'est particulièrement insupportable, alors que l'Argentine nourrit une partie de la planète.
Voilà, qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. On voit la très grande méfiance des Argentins vis-à-vis des banques. Ça, c'est depuis la crise de 2001 ?
Je ne pense pas. La crise de 2001 n'a pas aidé à créer cette confiance, puisque les Argentins qui avaient des économies dans les banques les ont perdues, ou n'en ont récupéré qu'une partie, ou n'ont récupéré qu'avec un taux de change qui était moins favorable que le taux du marché. Donc évidemment, ils mettent plus leurs économies à la banque, mais déjà avant, ils se méfiaient des banques. Et le fait que quand on a un peu d'argent, on change, on obtient des dollars qu'on cache, suivant la tradition, sous son matelas ou dans le fond du jardin, ça c'est un trait assez permanent, je crois, des pratiques économiques des Argentins.
Oui, on entendait dans le reportage de Marie Vienneau qu'il y a beaucoup de débrouilles. Quelle est l'importance de la pratique du marché noir ?
La définition du marché noir, c'est qu'on ne le mesure pas très bien.
C'est vrai.
Donc, mais vous voyez, les marchés sont jamais noirs et blancs. Ils sont souvent gris, c'est-à-dire une partie est blanche, une partie est noire. On l'a entendu d'ailleurs, on paye une partie du salaire de l'employé de la maison au blanc. Donc on la déclare, s'il y a un contrôle, on peut dire qu'elle est déclarée. Puis l'autre partie, c'est de la main à la main. Et c'est vrai qu'il est fréquent que les commerçants ne vous donnent pas de facture alors qu'ils devraient le faire. Donc ils essayent à chaque fois de dissimuler un petit peu. Donc il n'y a pas le blanc et le noir.
Et alors Sylvina, cette femme qui gère des pressings a évoqué le poids de la corruption. C'est un phénomène ancien. Est-ce qu'elle est présente à tous les niveaux, comme Sylvina a l'air de le dire ?
Ce qui est choquant pour les Argentins, c'est que on se rend compte, on a des preuves de plus en plus probante, si je puis dire, du fait que la corruption se place à tous les niveaux et au plus haut niveau de l'État. Et que de nombreuses entreprises qui donnaient des leçons sur l'entreprise privée et sur le fait que le libre marché devait régler les problèmes, on s'aperçoit qu'elles ont versé ou touché des pots de vin, notamment dans le cadre de marchés publics. Donc je pense que c'est ça qui choque beaucoup les Argentins, plus peut-être que la petite corruption du billet qu'on doit passer de temps en temps.
Marie Vienneau.
Enfin, il y a aussi quand même, des fois, quand on discute avec des Argentins, par exemple, un soir, on parlait des impôts et je parlais des gens qui ne payaient pas des impôts. Ils disaient, ah, génial, comment ils font? Il y avait un côté un peu, vous voyez, le consentement à l'impôt, on dit en France en ce moment qu'il n'est pas très élevé, mais alors en Argentine, il l'est beaucoup moins.
Ça, c'est une vieille histoire aussi, mais vous l'avez dit tout à l'heure, mais et on l'entendait. L'État argentin s'efforce, comme tout État, de faire rentrer ses impôts en contrôlant du mieux qu'il peut les revenus des personnes et des entreprises, en forçant les déclarations, en ayant des mesures restrictives de plus en plus fortes. Mais bon, c'est un jeu de chat et de la souris. Et comme, quand vous payez l'État, vous savez pas très bien à quoi ça sert et vous dites ça sert à la corruption, vous pouvez légitimement garder votre argent.
Mais alors justement, quand il est arrivé au pouvoir, Mauricio Macri a promis que ça allait changer. Est-ce qu'il a effectivement pris des mesures, au moins officiellement ?
Je ne pense pas qu'il y ait une lutte. Enfin, il y a une lutte contre la corruption, mais qu'il y a une lutte judiciaire. C'est-à-dire que ça ne vient pas du pouvoir exécutif, ça vient du pouvoir judiciaire. Il y a aujourd'hui une grande enquête sur la corruption en Argentine. On a des preuves de plus en plus intéressantes et de plus en plus graves, je dois dire, de l'implication des hommes politiques et de grandes entreprises dans des systèmes de corruption, comme on l'a eu au Brésil.
Alors hier, justement, le propre frère du président a été entendu par un juge dans le cadre des cahiers de la corruption, cet énorme scandale de pots de vin.
Et pour des pots de vin versés à Kirchner. Donc là, on a le mélange vraiment des deux opposants.
Alors, le frère dirige aujourd'hui l'entreprise familiale des Macri, qui est une entreprise de travaux publics. Et on voit dans ces cahiers de la corruption que ce sont quand même les grands travaux qui étaient au cœur du système, avec des valises de billets qui circulaient entre la présidence et un certain nombre de contacts de ces entreprises pour obtenir des marchés publics. Et il serait très étonnant que la grande entreprise des Macri n'ait pas, à un moment ou à un autre, participé à ce système.
Et si la justice s'empare aujourd'hui de ces dossiers, c'est le signe qu'il y a un peu moins d'impunité ?
C'est possible, oui, que ça aboutisse à moins d'impunité, même si tous les Argentins n'ont pas la plus grande confiance dans les juges, parce que s'il y a de la corruption dans les entreprises, il y en a aussi dans le système judiciaire.
Un dernier mot, Marie Viennot ?
Non, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un Bolsonaro aux élections en Argentine, en deux mots ?
Ça, c'est la grande question, parce que je ne le vois pas encore émerger, d'éventuel Bolsonaro argentin. Du côté du péronisme, il y a des candidats, disons, assez musclés, qui pourraient être un peu plus autoritaires. Mais actuellement, l'Argentine ne vit pas cette situation de violence civile qu'a connue le Brésil et qui a facilité l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Et puis, je crois aussi que malgré tout, la société argentine reste une société beaucoup plus éduquée que la société brésilienne. Et ça, c'est une force de résistance.
Merci Sébastien Velu. Argentine, vivre avec 50% d'inflation. Le grand reportage de cette semaine était signé Marie Viennot. Réalisation Annie Bro avec Dalia à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.